en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci à tous d'être là. Bon, nous attendons encore quelques personnes, en particulier Contamine, qui ne va pas tarder à arriver. Alors, nous avons à déplorer l'absence ce matin de Jean-Claude Margueron, qui devait parler de la bataille en terre mésopotamienne. C'est un spécialiste des périodes très anciennes. En particulier, il a fouillé à Marie. C'est le successeur de Paro à... Ça a été le successeur de Paro à Marie. C'est vous dire qu'il est désespéré en raison de la situation. Alors, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il est cloué au lit par une sciatique, mais j'ai eu un message cette nuit me disant « je ne peux plus bouger ». Et donc, il nous présente à tous ses excuses. Bien entendu, il nous fournira un texte. Alors, je vous propose, puisque tout le monde ne connaît pas chacun, de faire un tour de table très rapide, simplement, qui vous êtes et vos fonctions. Et puis, d'ici demain soir, tout le monde sera ami intime de chacun. Enfin. Alors, ben, commençons par ma droite.
Olivier Chélit.
Alors, s'il vous plaît,
à l'invitation de certains d'entre vous.
Il faut toujours... Oui, j'aurais dû commencer par là. S'il vous plaît, tout est enregistré et ça s'avère très utile à l'expérience. Donc, chaque fois que vous prenez la parole, vous appuyez sur ce bouton. En principe, ça marche. Quand vous avez fini de parler, n'oubliez pas d'appuyer dans ce que je... Voilà.
Donc, Olivier Chaline, je suis ravi de saluer ceux qui ont accepté de participer à ces deux journées dont je... co-organisateur grâce à M. Bechler.
Daniel Lévin, je suis professeur à Paris-Sorbonne d'archéologie spécialisé sur les mondes préhispaniques.
Pierre Souiri, je suis professeur à l'Université de Genève et je suis spécialiste du Japon, de l'histoire japonaise. Et ici, je vous entretiendrai du Japon médiéval plus particulièrement.
Bonjour à tous, je suis le général Patrick Charex, donc j'ai quitté il y a 10 mois l'armée de l'air. J'ai terminé 4 étoiles commandant les forces aériennes stratégiques, donc la dissuasion nucléaire.
John Hattendorf, professeur d'histoire maritime à la Collège de guerre navale aux États-Unis.
Jean-Claude Chenet, professeur à Paris-Sorbonne, pour peu de temps, mais bon... et spécialiste d'histoire byzantine.
Jean-Nicolas Corvisier, professeur à l'Université d'Artois, spécialiste d'histoire grecque et, disons, un petit peu de la guerre.
Lieutenant-colonel Vincent Barrettier, donc moi je suis docteur en histoire pour spécialiser l'histoire militaire contemporaine.
Laurent Guisfit, je suis donc plutôt orientaliste. Et je travaille sur la Corée. J'ai travaillé sur les Mongols d'un côté et sur la guerre de Corée de l'autre, ce qui fait un éventail assez large, comme vous le verrez tout à l'heure.
Donc, Jean-Christophe Couven, je suis maître de conférence en histoire grecque à l'Université Paris-Sorbonne et donc je travaille aussi sur la guerre.
Salvatore D'Onofrio, je suis professeur à l'Université de Palerme et membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France.
Voilà, merci, comme vous avez pu le constater. Tout de même, moi, Jean Bechler, professeur émérite de sociologie historique à Paris-Sorbonne également, Paris 4, et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, vous avez pu constater la diversité extrême des compétences réunies ici. C'est toujours le cas. Alors, je ferai une introduction extrêmement brève pour vous donner un peu l'idée du programme auquel vous avez accepté de participer. Il se trouve que dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Institut et de la Fondation Del Duca, j'ai trouvé le moyen de financer donc de soumettre un projet sur guerre et société, ou bien l'homme et la guerre, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis plus de 50 ans, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de traiter au fond. En tant qu'étudiant, j'avais regretté que la guerre fût totalement absente des enseignements dont je bénéficiais. Mais quand je dis totalement, donc ça remonte à une soixantaine d'années. Bon, totalement absente. On n'en parlait jamais, c'était un tabou. Enfin, bon, ça a changé depuis, grâce en particulier à Contamine, qui avait également le même sentiment qu'il y avait là un scandale intellectuel. Parce que comprendre aux histoires humaines si on met entre parenthèses la guerre? Ça paraît tout de même très difficile, mais on y réussissait. Enfin, bon, on faisait de l'économie, d'histoire économique, etc. Et donc, j'ai saisi l'occasion, très tardive, si vous voulez, de monter un programme en choisissant de le dérouler, si j'ose dire, en organisant d'une part des journées d'études, 2 jours, c'est le cas ici, donc sous forme de séminaire, et d'autre part des colloques de 3 jours plus amples et qui se déroulent au rez-de-chaussée. Tout se passe toujours dans cette maison qui est un hôtel particulier des frères Perrer, donc Second Empire. Ils n'y ont jamais habité parce qu'ils ont fait faillite avant de pouvoir l'occuper. Et puis, je ne connais pas le détail de l'histoire du bâtiment, mais ça a fini par être acquis par les Del Duca, à des fins de fondation, ils n'y ont jamais habité. Alors si nous avons le temps, mais en général on n'a pas le temps, on pourra regarder, il y a quelques chambres, ça fait très maison close, enfin, bon, du Second Empire, mais ça a beaucoup de charme, et en particulier, on ne manquait pas au rez-de-chaussée d'aller regarder le salon, et puis les selles, c'est tout de même avec de belles dorures, et puis la vue est merveilleuse, enfin. Alors, jusqu'ici, c'est la 12e opération de ce programme. Et il en reste très exactement 5. Je termine fin janvier. Donc, il y aura octobre, novembre, décembre et deux opérations en janvier. Alors, chaque événement, si vous voulez, est consacré à un aspect de la guerre. Je m'efforce toujours de faire en sorte que toutes les aires culturelles, pas toutes bien entendu, mais au total, oui, je dirais que toutes les aires culturelles auront été couvertes, et toutes les époques, en commençant par le néolithique. Par exemple, Jean Guilaine est venu et viendra encore en janvier pour parler de la guerre au néolithique. C'est la guerre née avec la néolithisation. Et donc, il faut commencer par là. Monsieur Donofrio est un anthropologue spécialiste de l'Amazonie. Amazonie ou Mato Grosso, hein? Chaco. J'ai un africaniste qui vient parler de l'Afrique, pré-coloniale. Donc, au total, si vous voulez, lorsque tout sera parachevé et que tout aura été publié, parce que les actes de chaque opération sont ou seront publiés aux éditions Hermann, avec qui j'ai un contrat, et qui a déjà publié 2 volumes, Et donc, vous êtes tous, non pas encouragés, mais obligés, si vous voulez, de nous fournir au plus tôt. Alors, pour ce qui est de ces 2 journées, je vous donne comme délai ultime la fin de l'année. Mais bien entendu, si vos textes sont prêts, vous les envoyez tout de suite. Et vous pouvez les envoyer à M. Kerbra, qui était là tout à l'heure et qui est secrétaire général de l'Académie des sciences morales et politiques. Son mail est très simple, kerbra, K-E-R-B-R-A-T, @asmp, Académie des sciences morales et politiques, .fr, qui ensuite me le communique, évidemment. Alors, je le dis chaque fois, je vous en supplie, envoyez-nous vos textes. Et à chaque fois, l'expérience démontre qu'il y en a toujours un ou deux qui procrastinent. Et donc, c'est comme ça. Mais on y arrivera. Alors, les colloques, je les monte tout seul. Pour être franc, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il se trouve que je le fais tout seul. Donc, c'est assez lourd. Et pour les journées, je m'adjoins toujours des compétences bien supérieures aux miennes. Et c'est pourquoi c'est Olivier Chaline qui a accepté de m'aider à monter ces deux journées sur la bataille. Alors, comment se présente dans ma tête, si vous voulez, le plan général de cette enquête, si vous voulez. Je vois le phénomène guerre, si vous voulez, comme inscrit dans un espace à trois dimensions. Un espace politique, un espace instrumental, donc pourquoi fait-on la guerre, à quelle fin, avec quoi fait-on la guerre, et enfin une dimension opérationnelle, comment fait-on la guerre. Alors, personnellement, mon intérêt porte plutôt sur la dimension politique, parce que je me suis passablement occupé de ces questions tout au long de ma carrière. Traiter la dimension instrumentale est, je ne dis pas facile, mais il y a matière à. Et il y a eu des journées sur les armées, il y aura des journées sur les techniques, il y a eu deux fois deux journées sur la stratégie en tant que pensée, si vous voulez. Donc le terrain est bien couvert. Le plus difficile, ce sont les opérations. Non pas que ce soit exceptionnellement difficile à saisir, mais ça ne se saisit, si vous voulez, que sur le terrain, si j'ose dire, et sur le terrain, on ne rencontre que des singularités. Donc il y a une infinité d'études possibles sur la bataille 2, sur la campagne 2, à toutes les époques et sur toutes les aires, et il est beaucoup plus difficile de trouver, si vous voulez, quelque chose à dire qui soit tout à fait convaincant et intéressant lorsque on abstrait, si vous voulez, des événements singuliers, des enseignements qui pourraient être utiles. Mais il faudrait que je vérifie, il n'y aura que ces deux journées sur le terrain, si vous voulez, sur la bataille. Et donc, je compte sur vous, mais là, je suis rassuré d'avance, pour nourrir de votre science ces deux journées. Alors, je propose de passer, à moins que Olivier Chaline... Non, il n'a rien à dire pour le moment. Donc, de passer immédiatement à l'ordre du jour. Et je donne donc la parole à Salvatore D'Onofrio, qui nous parlera de son objet de prédilection, à savoir les aïorés du Chaco paraguayen. Vous avez la parole. Ah ben, vous faites comme vous voulez. Bon, ben, venez là.
Essayer, voilà.
Oui, non, mais il y en a trois.
D'abord, merci, Monsieur Bachelet, pour cette invitation renouvelée qui me donne la possibilité de présenter les données de mes enquêtes ethnographiques auprès des aïorés pendant une année et demie. Les aïorés du Chaco boréal paraguayen placent la bataille, au croisement de deux paradoxes que l'on se limitera ici à évoquer et qui aident à comprendre leur idéologie belliqueuse. D'une part, au moyen de la guerre intra-ethnique, sous laquelle je me plongerai plus que sous d'autres formes de guerre, les aïorés semblent mettre à mal des ressources comme l'organisation clanique qui sont au fondement de leur société. De l'autre, tout en étant des hommes nés pour la guerre, comme le disait le père Lafito des Algonquins.
On me dit que si vous appuyez sur diaporama...
Ah oui, voilà. Ah ben très bien. Il y a diaporama, c'est... ici. À gauche ou haut? À gauche? Ah bon, bon, bon. Alors c'est là. C'est ici plutôt. Mais c'est parfait. Ah bah oui. C'est des Ayurés lors d'un des rencontres avec les Blancs et avec les autres Ayurés déjà sédentarisés. Et parce que c'est le seul groupe d'Amérique du Sud qui compte encore une centaine d'individus, de familles qui n'ont pas eu de contact, entre guillemets, avec les autres Ayurés déjà sédentarisés ou les Métis paraguayens. Donc je disais qu'il y a un double paradoxe, parce que d'une part, les Ayurés semblent mettre à mal des ressources comme l'organisation clanique qui fonde leur société. De l'autre, tout en étant des hommes nés pour la guerre, comme le disait le père Lafitau des Algonquins, des Hurons, qu'il étudia au début du XVIIIe siècle, les Ayurés sont obligés de tuer symboliquement, quel que soit leur ennemi, avant et après la bataille. On insistera sur cet aspect. Lors du premier colloque de ce programme d'études, pensé par Jean Bachelet, nous avons déjà présenté les aspects de ritualisation de la guerre chez les Achés Guayaki, étudiés notamment par Pierre Clastre, et chez les de l'Est paraguayenne et chez les Tupinambas du littoral brésilien. Dans cet exposé, nous prolongerons cette réflexion en essayant de saisir les isomorphismes entre les activités rituelles et l'activité belliqueuse des Ayurés, telle qu'elle se manifeste au moment de la confrontation armée. Commençons néanmoins par une différence importante chez les tribus Tupi-Guarani et notamment chez les Tupinambas, car les Tupinambas, à l'inverse des Ayurés, ils avaient l'habitude de s'engager dans une lutte verbale directe avant que la bataille ne soit déclenchée. Les guerriers de deux camps s'adressaient des insultes à distance pour se précipiter ensuite les uns contre les autres dans la tentative de désarmer un des adversaires pour s'emparer de lui vivant. Comme on le sait, le but était d'alimenter la chaîne cannibale par la transformation de l'ennemi en beau-frère destiné à être mis à mort conjointement aux enfants qu'il avait eus avec la femme qu'on lui avait donnée en épouse, le plus souvent la sœur ou la fille de son meurtrier. La dissolution de cette famille symbolique servait à refonder périodiquement la société Tupinamba autour du meurtrier, dont l'assimilation à sa victime, l'abstention de manger de sa chair, l'acquisition d'un nouveau nom, suivi par son isolement, et les scarifications qui le faisaient assimiler à une femme ayant eu ses premières règles, donc une femme féconde, sont autant d'étapes nécessaires à rétablir une distinction entre soi et l'autre que la réciprocité cannibale était censée abolir. Pour faire des prisonniers, les Tupinambas allaient à la bataille avec une corde, la Musurana, on l'appelait. Une corde entourée autour de leur corps et qui aurait servi aussi pendant le combat rituel précédant la mise à mort du captif. Lorsque les ennemis n'étaient malheureusement que blessés ou tués, on les dépeçait sur le camp de bataille pour les manger collectivement de retour au village. Les chroniqueurs auxquels on doit ces données ethnographiques de Jean de Léry à Tevet ne manquent pas de relever le caractère d'incomplétude de cette consommation alimentaire, car lui était soustraite toute la partie rituelle en vue de laquelle la bataille était menée, c'est-à-dire faire des prisonniers. Revenons aux Ayurés. Leur but n'étant pas la capture de prisonniers ni la dévoration de l'autre, la bataille prenait des formes différentes dont nous ne retiendrons ici que l'essentiel. Tout d'abord, le guerrier ayuré ne portait avec lui aucune corde, alors qu'il ne manquait pas de mettre dans sa sacoche en fibre de caraguata, il s'agit d'une broméliacée, les objets symboliques caractérisant la guerre chez eux. Un collier en plume d'oiseau, un bandeau frontal en plume d'oiseau et peau de jaguar qu'il endossait avant la bataille et un sifflet un sifflet en bois de Palo Santo, c'est une espèce végétale du Chaco, qui est très dur et parfumé, qu'il utilisait après la bataille pour éliminer symboliquement toute trace de la substance sanglante de l'ennemi qu'il avait tué. Ensuite, il s'adressait lui aussi à son ennemi avant la bataille, mais cela hors de sa vue et à son insu. Exécuté à la suite de l'annonce de la guerre par le chef, ce rituel visait à transformer un ayoré d'un autre sous-groupe en ennemi, en le singularisant, en le privant de la substance sociale commune qui est l'appartenance à l'un des sept clans entre lesquels les ayorés se partagent. Je me sais. Cela se fait après la vision éventuelle du chef reconnu comme le plus important et après que celui-ci ait organisé une réunion avec les chefs des campements voisins du même groupe ayoré ou de groupes alliés pour planifier la guerre. La guerre était toujours planifiée par les ayorés. Par respect, on ne convoquait pas par l'intermédiaire de messagers des chefs aussi importants que celui qui était considéré comme le plus prestigieux. Ces derniers auraient appris également la nouvelle et se seraient rendus tout seuls à la réunion. Il n'y avait pas besoin de les convoquer. Pendant le rituel, les guerriers secouent leur corps, ce qui leur permet parfois d'atteindre une véritable transe nerveuse et poussent des cris qui ressemblent plutôt à des invocations dramatiques. Par ce cri, ils peuvent montrer qu'ils n'ont pas peur et afficher leur mépris de la mort en s'assimilant à des éléments de la nature, des plantes, des animaux ou des corps célestes. Chacun choisit un élément puissant, comme le soleil, une carapace ou le feu, parmi ceux qui appartiennent à son clan. On les appelle en ayoré les edopassades. Il s'agit de véritables gisements symboliques grâce auxquels les clans se réfèrent les uns aux autres. Le terme utilisé pour cet emportement, chugui, est significatif en soi car il indique, dans son sens premier, le bourdonnement furieux des abeilles quand les ayorés récoltent le miel des ruches. Ce rituel rappelle, de manière isomorphe, les modalités selon lesquelles les ayorés attaquent le village ennemi. Après l'avoir espionné pendant un certain temps, les guerriers ayorés d'un groupe reconnaissable par son enracinement dans un territoire passent à l'attaque tous ensemble, en comptant sur l'effet surprise et sur la crainte que peuvent susciter chez les ennemis leurs hurlements. Venons-en aux armes utilisées durant la bataille et que les ayorés tiennent toujours à portée de leurs mains à l'intérieur de la hutte. La massue, l'arc, les flèches et la lance en bois ont survécu jusqu'à une époque récente à côté des deux types de lances en bois et en fer qui ont été introduites après l'arrivée des Blancs et surtout au moment des deux guerres qui se sont abattus sur le Paraguay et notamment dans le Chaco à la deuxième moitié du XIXe siècle, de 1864 à 1870 et dans les années 1930 du XXe siècle, de 1932 et 1935, la fameuse guerre du Chaco. Pourvu d'une longue baïonnette en fer, la première de ces deux armes a été utilisée, arme que vous pouvez voir dans les mains d'un ayoré qui venait d'arriver, pas plus d'un mois, de sédentariser, que je rencontrais lors de ma deuxième enquête chez eux. Donc, la première de ces deux armes a été utilisée véritablement comme lance, alors que l'autre, celle que vous voyez, munie d'un tranchant dans toute la longueur de la partie en fer, il s'agit d'une lame aplatie, est utilisée pour couper la tête des ennemis tués lors de la bataille. Cette tête, qui était prise parfois par les cheveux, est transportée à quelques centaines de mètres du village de l'ennemi. La séparation de la tête du corps, empêchant les ayorés de donner sépulture au cadavre, celui-ci devient une nourriture pour les fauves. D'où l'impossibilité pour le mort de réactiver le cycle qu'après plusieurs étapes, le transforme en végétal ou en animal et par là en un nouveau-né. Lors d'une autre cérémonie, plus complexe, appelée Namakade, les guerrières ajourées s'adressent encore une fois directement à l'ennemi par des chants appelés Chinguangane, qui commencent souvent avec la formule « Je dois me lever » et dansent autour d'un cactus où le symbole clanique du chef le plus prestigieux est significativement gravé, ou bien aussi des symboles claniques d'autres chefs. Cet élément est particulièrement important car il montre une des logiques profondes qui réglementent la guerre, surtout intertribale. En effet, sa préparation est centrée sur l'exaltation du clan, qui est à la fois principe identitaire et d'organisation sociale. Que l'on pense, pour en souligner l'importance du clan, à l'alliance matrimoniale, structurée sur un principe exoclanique qui n'empêche pourtant pas une préférence pour une forme de mariage au plus proche, défini lui aussi par l'appartenance à un clan, parce qu'on préférait épouser la fille, une jeune fille dont la mère était du même clan que le garçon. On ne pouvait pas épouser encore aujourd'hui chez les Ayoré la fille d'un homme qui est du même clan de celui qui voudrait l'épouser. Chez les Ayoré, c'est les femmes qui choisissent par ailleurs. Et que l'on pense aussi à la solidarité clanique qui oblige à l'aide réciproque des parents des clans, surtout en l'absence de parents généalogiquement proches. Quand un ailleuré va dans un autre village, désormais même à une centaine de kilomètres, il fait référence surtout à ses parents de clan, pas à ses parents du point de vue généalogique. Or, paradoxalement, dans les rituels de guerre, on ne fait aucune référence au clan des ennemis que l'on envisage de tuer ou que l'on a déjà tué, alors qu'on en rappelle parfois soigneusement le nom. En effet, il n'y a que la solidarité clanique qui est suspendue pendant la guerre, tandis que son exaltation est faite de la même manière par les groupes ayorais ennemis qui partagent aussi, avec des différences insignifiantes, partagent la langue, la culture matérielle, les coutumes ou les mythes. Quoiqu'il ne soit pas confié à des mécanismes élémentaires, en temps de paix, les mariages entre groupes différents peuvent se faire et l'appartenance clanique reprend alors toute son importance. Un rituel qui prolonge en quelque sorte la bataille et qui témoigne de la nécessité qu'elle soit inscrite dans un horizon symbolique pour qu'elle puisse avoir lieu se fait pendant le retour de l'expédition guerrière. Ce rituel, appelé Pagapidi, et qui représente la mise à mort du double de l'ennemi déjà tué, libère le guerrier ayoré des conséquences néfastes qui accompagnent l'acte guerrier. Meurtrier. Le meurtrier trace sur le sol, qu'il a préalablement nettoyé, une silhouette qui constitue la preuve du meurtre. Le mort appartient en effet à celui qui lui a infligé la blessure mortelle. Là, vous voyez les deux types de lances en bois et en fer utilisées depuis la guerre du 19e et 20e siècle par les ayorés. L'attribution du mort lors de la bataille est tellement importante qu'elle peut même donner lieu à des disputes avec le chef. Ou bien on peut faire cadeau du mort à quelqu'un de sa propre famille qui n'a pas encore tué personne. Le dessin représente l'ennemi autour duquel le guerrier tourne une ou plusieurs fois en s'arrêtant surtout sur la tête, sur l'espace rectangulaire qui figure la tête. À celle-ci, le guerrier ayoré réserve un traitement particulier car il l'écrase avec les pieds et avec les mains qui simule l'empoignade d'un bâton. En même temps, il lance des cris par lesquels il s'adresse encore une fois directement à son adversaire, lui rappelant qu'il l'a tué. Ce qui fait pendant au cri de défi lancé lors de la préparation de la guerre et qui singularise à nouveau l'ennemi par rapport à une pratique de la guerre poussant à frapper d'alta. Cette singularisation apparaît d'autant plus paradoxale que les victimes sont le plus souvent des femmes et des enfants,
que le Guéret Ayoré comptabilise tous comme étant des personnes, y compris les jaguars qu'il a tués. Les Ayoré considèrent les jaguars comme des personnes. À côté du traitement symbolique du corps de l'ennemi, une intervention sur les armes meurtrières est nécessaire, car, selon la croyance, le sang de l'ennemi les a rendus inutilisables à cause de leur impureté. Si quelqu'un d'autre entre en contact avec ces armes, il peut rester paralysé, donc voué à la mort. Pour conjurer ce danger, deux possibilités sont offertes aux guerriers Ayoré. Soit il les abandonne, les enfouissant sur des feuilles mortes à côté du dessin, comme fait le celui qui a simulé ce rituel à la fin, soit il les récupère en les purifiant rituellement par le feu. La récupération des armes qui ont tué n'est justifiée que par l'affection du guerrier à leur égard. Ils aiment leurs armes, comme disent les guerriers Ayoré. Il faut avoir fait le dessein pour pouvoir coucher avec sa femme, faute de quoi on risque des maladies. Le lieu où le pagapidi a été fait sera complètement abandonné. Une attitude très différente se manifeste à l'égard des armes prises à l'ennemi. N'étant pas considéré comme tabou, le mot tabou se dit poujak en ayoré, c'est un terme très intéressant, ces armes ne nécessitent aucune intervention particulière pour pouvoir être utilisées. Alors que les propres armes sont associées à la mort, et à la mort symbolique qu'est la paralysie, on n'inscrit pas les armes de l'ennemi dans un horizon rituel parce qu'on suppose qu'elles ont été déjà purifiées après avoir donné la mort. Mais cette absence de ritualisation montre aussi que la culture ayoré a tendance à refouler la puissance d'autrui. C'est peut-être pour cela que l'on ne se réfère généralement pas aux défaites et que les attaques meurtrières que l'on a soi-même subies ne deviennent pas l'objet de récits. Venons-en donc aux récits de guerre et aux rapports qui sont très importants chez les ayoré et qui ne sont pas vraiment connus par d'autres groupes, le genre de récits qu'ils font par d'autres groupes, ni du Chaco, ni de l'Amérique du Sud. Apparentés au mythe, ces récits de guerre ayoré présentent une formalisation canonique très stricte et ils ne peuvent être racontés que par ceux qui ont vécu victorieux les événements. Celui qui a eu une défaite en bataille ne raconte pas cette défaite. Il s'agit d'une pantomime qui se déroule quelques jours après l'expédition guerrière, dans le campement permanent pendant la saison des pluies et dans le campement temporaire pendant la saison sèche. Chacun raconte devant son habitation, c'était l'habitation d'antan, des ayoré. Chacun raconte donc devant son habitation, entouré en principe par les membres de son ogasui, la famille élargie qui est encore aujourd'hui le lieu véritable de socialisation, ainsi que de définition des pouvoirs et des échanges en tout genre avec les autres groupes. Le guerrier conteur se soumet à un traitement symbolique du corps qui contribue à qualifier de récit le récit de lieu de réimmersion périodique dans la situation de guerre et à travers elle dans le temps des origines également. Autrefois, avant le récit, le conteur peignait et ornait son corps de la même manière que l'on a vu que pour l'expédition guerrière ou pour la récolte du miel. Ce sont des signes qui lui donnent symboliquement la puissance des animaux originaire, d'origine, dont il utilise la peau et les plumes. La pantomime du récit de guerre prévoit aussi l'usage d'armes, mais en leur absence, comme on le verra, on peut se servir aussi d'un bâton. Comme on le verra si la connexion est assurée. Le récit fonctionne à la fois comme un lieu de vérité socialement contrôlée et d'affirmation des valeurs et des pouvoirs impliqués. C'est par la guerre qu'un ayoré confirme ou fait évoluer sa position statutaire au sein des différentes sphères qui définissent son identité. Juste un exemple. Dès qu'un homme se marie, le principe de résidence uxori locale l'oblige à vivre auprès de son beau-père. Il est ici dans une situation de marginalité et de dépendance. C'est seulement par l'intermédiaire de sa femme qu'il pourra adresser la parole à ses beaux-parents et à ses belles-sœurs, et vice-versa, par exemple, pour faire circuler le mate, la boisson de yerba mate, que l'on consomme dans tout le cône sud de l'Amérique. C'est encore avec le consentement de sa femme qu'il pourra construire sa propre maison, loin de celle de son beau-père, lorsque ses enfants auront grandi. Ce n'est que la guerre qui peut lui donner la possibilité d'accélérer ce processus d'émancipation, et ce n'est pas un hasard si cette conduite de mutisme s'atténue uniquement pendant les expéditions guerrières, notamment à travers les conseils que le beau-père peut donner à son gendre. Permettant de convertir en puissance la fragilité d'un homme qui se voit obligé de négocier en permanence ses pouvoirs et ses rôles, la guerre à la tuerie se situe au centre non seulement de la vie sociale de Zaïoré, mais aussi de leur mémoire. Aujourd'hui, dans une situation qui a largement changé, il arrive que les chefs soient nommés parmi ceux dont le père a tué, comme si cette valeur guerrière se transmettait généalogiquement et pouvait être récupérée à tout moment. En dépit de leur contenu distinct, sur la guerre proprement dite, la tuerie, la chasse ou la rencontre fortuite avec les jaguars, ces récits partagent les mêmes registres gestuels et vocaux, la présence d'éléments contextuels est rare, la redondance strictement orientée vers des formules destinées à mettre en valeur l'habileté demandée aux guerriers. Nous observons dans ces récits l'alternance de deux moments qui trouvent des correspondances significatives dans d'autres registres de la vie sociale. D'une part, le récit procède selon un style récitatif, marqué par des tons et des gestes dont la variété n'est due qu'à l'exécution particulière de chaque conteur, tout en puisant dans les mêmes codes expressifs. D'autre part, la narration connaît des accélérations soudaines qui sont réalisées avec la voix et le corps encore plus tendus et qui soulignent par des mots répétés et par des gestes canoniques en style représentatif, pourrait-on dire en langage musical, les mouvements rapides dans l'espace, surtout ceux de départ, d'attaque ou de retour lorsque l'action de guerre est terminée. Cette accélération, qu'en utilisant un concept de Joss repris par Jung, nous pourrions appeler verbomotrice, cette accélération verbomotrice consiste en une torsion, vous pouvez le voir dans l'image, à une torsion légère de la main droite qui tient la lance, que l'on fait glisser sous les selles dans un mouvement d'avant et d'arrière, pendant que l'autre bras, main ouverte ou fermée, est tendu dans la direction contraire. En même temps, le pied, d'abord soulevé, plus ou moins lentement, retombe pesamment par terre dès que le bras qui ne tient pas la lance est complètement tendu. Lorsqu'on utilise deux armes, celle qui est dans la main gauche est tenue parallèle au sol. Un détail significatif. Tous les conteurs, s'ils utilisent une seule arme pour le récit, portent leurs mains, vous le pouvez voir dans deux de ces images, leurs mains sur la cuisse, puis la tirent vers le haut. La cuisse, dont d'aucuns ailleurs, souligne l'importance comme siège de force et de résistance. Le geste, propre à une attitude épique dont l'histoire est encore à faire, représente une espèce de marche furieuse menée de corps fermé, pourrait-on dire, où les mouvements des jambes et des pieds qui marquent le pas donnent unité et rythme à l'ensemble. Il y aura une histoire, une enquête à faire aussi sous des hypothèses diffusionnistes de ce geste, qui est unique, vraiment unique en Amérique du Sud. Dans le cadre du récit, le geste qui exprime le mouvement est autant valorisé que celui de tuer, ce qui est compréhensible dans une société
où la période de nomadisme polycentrique est idéologiquement aussi importante, sinon plus, que celle de sédentarité, tout au moins par rapport aux épreuves que la nature impose aux chasseurs-cueilleurs. Cependant, si cet état d'hostilité qui caractérise la culture ayoré s'intensifie particulièrement pendant la période de nomadisme, atteignant un acmé lors de la convergence de différents groupes vers les salines qui se trouvent au centre de leur territoire, à la frontière entre le Paraguay et la Bolivie, parce qu'une partie des ayorés habite la Bolivie, le département de Santa Cruz notamment. Le bellicisme n'en est pas moins significatif pendant la période des campements permanents. Ces souvenirs sont encore très présents chez les ayorés plus âgés, mais ne manquent pas de passionner aussi les plus jeunes. En témoignent les extraits qui vont suivre, j'espère, et qui remontent, au moins l'image, s'il n'y a pas le sonore, et qui remontent à l'année dernière. Et c'est avec ces images que je conclurai mon exposé. Donc, il faut sortir d'ici. Voilà. Il faut maintenant ouvrir la connexion Internet. Voilà. Il faut écrire les Contamos. On devrait apparaître. Page inaccessible. C'est dommage. Attendez, parce que parfois, lorsqu'il y a page inaccessible, on élimine le S, là. Il arrive que devient accessible. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de connexion. Voyons sur l'écrit ici. Nos ayores. Contamos. Tant pis, vous imaginez ce geste, vous l'avez vu. C'est ce qui est intéressant. Mais si vous cherchez chez vous Los Ayoreos Contamos, vous trouvez des images qui ont été recueillies il y a un an, et où surtout ce qui est impressionnant, c'est les hurlements, que, comme on sait, ne sont pas exclusifs de cette société perdue dans un coin du Chaco, mais qui dans le monde ancien était connue aussi. Merci.
Merci, monsieur D'Onofrio. Nous accueillons Philippe Contamine, qui est le patriarche, le patriarche des études d'histoire militaire.
Donc j'avais,
Vous êtes excusé.
Voilà, bon. Mon âge et puis ma distraction. Ça va peut-être ensemble.
Bon, je propose, parce que tout de même, cet exposé porte sur un objet très, très différent de tous ceux qui apparaîtront ensuite, poser éventuellement quelques questions à M. D'Onofrio sur ses propos. Bien entendu, personne n'est compétent pour discuter. C'est le propre de l'ethnographie. C'est que ceux qui ne sont pas allés sur le terrain, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, ne peuvent difficilement contester. Donc on suppose que tout est juste. Et M. Levin.
Moi, j'ai simplement une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le cannibalisme. Alors, est-ce qu'il s'agit de véritable cannibalisme, c'est-à-dire alimentaire, d'une dimension alimentaire, ou il s'agit d'anthropophagie rituelle ?
Comme l'avait compris déjà Montaigne dès son époque, et comme l'ont réaffirmé tous les grands spécialistes, les anthropologues américanistes de Metro à Lévi-Strauss, et surtout à partir des données qui ont été constituées par Jean Delery, Tevet et d'autres, il s'agit d'une forme cannibalique qui n'a pas du tout un but alimentaire, parce qu'il, comme le pensaient certains anthropologues américains, parce qu'il disposait de protéines suffisantes pour pouvoir faire face, disons, à l'exigence de protéines, et dont la composante rituelle était très très importante, parce que, figurez-vous, et comme on sait, on préférait faire des captifs plutôt que tuer des gens. On donnait à ce captif le meurtrier, donnait celui qui l'aurait tué, aurait tué le captif, donnait à ce captif sa sœur ou sa fille. Et donc, il constituait une famille symbolique qu'elle était destinée à être effacée. C'était ce que j'appelle comme un parcours à rebours pour refonder la société sur des bases, disons, qui impliquent, voilà, non seulement, mais on mimait une guerre, une bataille rituelle, voilà, on est en plein de notre séminaire, une bataille rituelle avant que l'ennemi ne soit tué par un coup de massue de la part de son meurtrier. Donc la dimension rituelle est tout à fait nécessaire pour que un acte à l'extrême de l'humanité, le cannibalisme, puisse s'accomplir.
Alors, j'aurais une question, enfin, proprement, j'allais dire militaire, si le mot s'applique. Bon, ce que vous nous avez décrit est assimilable à une expédition de chasse. Ça, c'est le point de vue du chasseur. Quel est le point de vue du chassé ? Il doit, donc tous risquent d'être attaqués. Alors, quelles mesures prennent-ils pour éviter de devenir chassés et de préférence être chasseurs ? Et que se passe-t-il lorsque les deux se rencontrent ?
La question est non seulement pertinente, mais au cœur des stratégies belliqueuses de ce groupe amérindien. Et non seulement de ce groupe amérindien, parce que c'est le modèle de la prédation qui est sous-tendu aux pratiques guerrières, comme elle a été montrée par des travaux d'Erickson et d'autres qui ont travaillé sur les basses-terres. Et donc, pour ne pas être chassé, il fallait chasser. Tout le jeu est là. Et il fallait chasser pour s'emparer des substances de l'ennemi et les incorporer. C'est pour cela que le cannibalisme a aussi... Pour les groupes cannibales, mais aussi pour des groupes qui ne pratiquent pas le cannibalisme, la tentative, c'est de s'emparer des substances de l'autre pour devenir en quelque sorte l'autre. Hein? Et quand on mangeait l'autre, les tupinambas, en réalité, c'est du soi-même qui se réapproprie. C'est un geste spéculaire dont tout l'intérêt. Il y a encore un aspect... c'est que les ayorés conçoivent, et non seulement les ayorés, conçoivent la chasse, la récolte du miel, dans les ruches et la guerre comme des actes très similaires entre eux, au point qu'ils s'habillent, qu'ils arborent les mêmes symboles pour ces trois activités. Voilà. C'est un prélèvement de la nature à laquelle il faut restituer quelque chose... aussi du point de vue rituel, par d'autres aspects.
Monsieur Chenet.
C'est une question évidemment d'ignorant parfait. Est-ce que ces conflits sont fréquents ? Est-ce que ça a un impact démographique ? Parce que ça pourrait réduire la population si l'enthousiasme guerrier se développait.
Non, justement, pour revenir aussi à la question qu'avait posée M. Bachelet, ces conflits n'étaient pas très fréquents, ni chez les ayorés, ni chez les tupinambas, bien qu'il y a des voyageurs qui insistent sur un aspect démographique important, disons. Hein. Mais disons que puisqu'il fallait se défendre, il faut être chassé plutôt que chassé, alors on faisait attention. Tout ce qui bougeait à peine à quelques centaines de mètres de son propre village, était attentivement inspecté. Voilà. J'ai voulu marquer surtout le poids de la guerre intra-ethnique chez les ayorés, parce que c'est un aspect important, parce que c'est les mêmes groupes qui peuvent devenir échanger les femmes ou échanger d'autres biens lorsque la paix, lorsqu'on passe de la guerre intra-ethnique à la paix, donc à la possibilité d'une réciprocité. Voilà. Le problème est que chez les ayorés, comme chez d'autres groupes amérindiens, la guerre n'est jamais détachée d'autres aspects de la vie sociale, comme la paix, l'échange. Une fois, je m'excuse de faire cette référence, une fois que j'étais allé voir Claude Lévi-Strauss pour
lui exposer les données que j'avais recueillies autour de ces alliances interethniques et des guerres interethniques chez les Ayoré, en lui disant que lorsqu'on se faisait ami avec quelqu'un, un autre sous-groupe Ayoré, on devenait ennemi de l'autre, qui était ennemi de celui avec qui on se faisait ami. Il m'a répondu, mais ça, ce n'est pas exclusif des Amérindiens. Voyez les Français, ils ont été alliés des Allemands lorsqu'ils étaient ennemis des Anglais, et vice-versa. Ça leur arrivait.
À propos du cannibalisme, comment dire, pour suppléer le manque de protides, c'est ça, de protides, disons. C'était Marvin Harris qui avait développé cette...
Oui, Marvin Harris,
exactement. Mes amis moqueurs l'avaient traité de gastro-marxisme.
Gastro-marxisme, c'est pas mal.
C'était pas mal trouvé.
Avec les conséquences que cela peut un jour entraîner. Oui, c'était Marvin Harris qui a élaboré toute une théorie... matérialiste, disons.
Il y a eu beaucoup de succès, parce que c'est piquant, quoi, enfin.
Alors que le cannibalisme, tout au moins chez le Tupinamba, est quelque chose de vraiment compliqué. Ouais. Vraiment compliqué, mais qui arrive en dernier au même présupposé logique que partagent les humains. Sinon, il n'y aura pas...
Bien. Bon, l'ordre qui figure sur ce papier n'est pas un obligatoire, n'est pas une contrainte. Et je me demande s'il ne serait pas judicieux de rester en Amérique ou dans les Amériques, parce qu'il y a tout de même des points communs, ou du moins d'origine, donc avec Daniel Levin, sur la bataille dans l'Amérique précolombienne.
Tant que la machine se mette en place, mais alors, on va tout de suite. Voilà. Bien, moi je vais aborder essentiellement les deux grandes aires culturelles, la Mésoamérique, c'est-à-dire un espace géoculturel qui regroupe le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras. Toute petite partie du Costa Rica. Et puis, ce que j'ai intitulé, bon, c'est un peu vaste, les Andes, parce que je me suis calé sur les dimensions de l'Empire Inca. Donc, les Andes, et en réalité, c'est bien sûr le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, le Nord-Ouest argentin et la moitié du Chili. Hein, ça correspond à l'ancien Empire Inca. Et c'est un peu là-dessus que nous allons évoluer. Donc, voici une carte qui vous montre... En gros, ces deux espaces, sachant que chronologiquement, je vais le faire en deux temps, une première période qui va aller, je dirais, en gros, du 3e millénaire avant notre ère jusqu'au 5e, 6e siècle de notre ère. Et puis, à partir du 6e, semble-t-il, on passe à un autre type de bataille. Donc on a dans un premier temps une bataille de héros, un peu comparée au monde grec de l'Iliade, où ce sont des individus qui s'affrontent. Et puis à partir du 6e, 7e siècle, on passe à une phase beaucoup plus importante avec la constitution d'empire, de royaume et d'empire. Et cette fois-ci, nous avons des unités constituées avec des divisions, des bataillons qui vont s'affronter sur ces différents espaces. Alors parmi les... je vais utiliser deux moyens d'investigation, bien sûr l'archéologie, hein, puisque je suis archéologue, et puis les chroniques du XVIe siècle qui ont été rédigées donc, au moment de la conquête, soit par des Espagnols qui sont hommes de robe ou hommes d'épée, ou par des métis et des indigènes qui ont été hispanisés et christianisés et qui, à ce moment-là, commencent à rédiger dans leur langue et en espagnol, c'est généralement bilingue, hein, des chroniques racontant l'histoire de leur famille, de leur dynastie, pour en réalité récupérer des privilèges auprès de la couronne d'Espagne, qu'ils vont récupérer, puisque Charles Quint va évidemment s'associer cette noblesse indigène dont il a besoin pour faire fonctionner les empires. Alors, vous avez devant vous un site très ancien du Pérou, qui est le site de Sitchin, où nous avons les premières traces archéologique, de combat, de bataille, je dirais, à assez grande échelle. S'il s'agit d'un centre qui a, sur la côte nord du Pérou, qui a entamé des guerres de conquête pour le contrôle de l'eau. Au Pérou, sur la côte désertique, c'est essentiellement le contrôle de l'eau, donc de l'agriculture, qui va donner une dimension guerrière à ces populations. Sachant que cet aspect économique va évidemment être emballé, enrobé dans une dimension symbolique, puisque les captifs seront sacrifiés. Donc on a une guerre qui a une dimension symbolique et une dimension économique. Ce que vous voyez, donc, ce sont des dalles sculptées qui représentent les personnages. Les vainqueurs sont habillés avec des armes, comme celui qui est en bas. Alors, je vais essayer de... C'est pas pratique avec ça. Ouais, non. Ça marche pas. Donc, avec des... comme celui qui est en bas, la photo du bas. Et puis les autres, ce sont les têtes coupées ou les corps tronçonnés qui ont été sacrifiés. Donc, cette structure remonte à 1800 avant notre ère. Ah, voilà. Au Mexique, nous allons avoir à peu près la même chose avec un autre site qui est le site de Monte Albán dans la région centrale du Mexique, l'état de Oaxaca, où nous avons là aussi un centre cérémoniel, Monte Albán, hein, qui va conquérir tous les centres voisins et assurer une suprématie sur toute cette région. Et là aussi, les seigneurs vaincus, les chefs vaincus, sont représentés avec leurs glyphes, mais morts, la bouche ouverte, hein, c'est une codification, l'œil fermé et surtout dénudé. Le fait d'être dénudé et ne plus avoir de vêtements ou de parures, hein, sauf les ornements d'oreilles, indique bien le sort du captif. Et en droite, vous avez, je dirais, une des plus anciennes traces de sacrifice humain par arrachage du cœur, la cardiectomie, qui est donc une des formes sacrificielles les plus connues au Mexique. Et elle est représentée, le cœur est représenté sous cette forme trilobée, hein, qui sera après, qui deviendra le glyphe, qui désignera le sacrifice par cardiectomie sur l'ensemble de l'espace mésoaméricain. Donc je vous ai mis plusieurs de ces stèles. Au début, c'est assez amusant, elles ont été considérées, ces figures ont été considérées comme des danseurs. Donc ça s'appelle les stèles des danzantes en espagnol. Et évidemment, il a fallu attendre un certain... C'est assez récemment d'ailleurs que c'est notre équipe qui a expliqué, dans le cadre de ces opérations, de ces travaux de recherche sur la symbolique, l'écriture symbolique, qu'il ne s'agissait pas de danseurs, mais bien de sacrifiés, de captifs vaincus, dont le nom des cités apparaît en glyphe voisin. Sur la côte nord, revenant au Pérou, donc je vais passer entre le Mexique et le Pérou, de façon à ce que ça soit un peu plus attractif pour les mêmes périodes. Nous avons sur, je dirais, une des cultures les plus connues de la côte nord du Pérou, celle des Mochica, qui s'épanouit entre le début de notre ère et 800-900 de notre ère, qui est le monde amérindien. Maintes reprises, je l'ai déjà dit dans cette enceinte, est un monde éminemment guerrier, hein, où la guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est fondamental dans la vie des peuples amérindiens. Et on remarque que les combats qui opposent les centres cérémoniels et les petits royaumes, ce sont les mêmes personnages qui s'affrontent. Hein, ce sont donc des Mochica contre des Mochica. Et ce qui est représenté, ce sont des combats individuels. Il ne s'agit pas de grandes unités, on n'a pas de représentation avec des centaines, voire des milliers de personnes. Alors vous avez évidemment le vainqueur. La scène de combat proprement parlée est assez rarement représentée. En réalité, c'est plutôt la conséquence du combat, puisque là, la conséquence, évidemment, c'est le sacrifice. Et vous voyez sur le dessin qui est en haut, à droite, le guerrier vainqueur qui attrape son ennemi par la chevelure, donc évidemment le cheveu, la tête, devient le signe de la capture. Donc le soldat, le guerrier est vaincu. Et ensuite, il est ramené dans le centre cérémoniel, dénudé, avec la corde au cou, où il va être sacrifié. Vous avez tout en haut son trophée d'armes, c'est-à-dire son armement, qui est constitué essentiellement, à cette époque, d'un armement offensif avec une masse d'armes. C'est une véritable masse d'armes. Je vous verrai des exemplaires un peu plus loin pour les périodes plus tardives. Et puis, en équipement défensif, d'un bouclier qui peut être rond ou carré, et de ce motif qui est à la ceinture, cette pièce mobile qui est à la ceinture, qui est une protection pour le coccyx, car le but, là aussi, n'est pas nécessairement de tuer l'ennemi, mais de le capturer vivant. Donc, on frappe avec la masse d'armes sur les genoux, vous verrez qu'il y a des représentations très précises, de façon à l'obliger à se coucher, à le blesser, et il est capturé. C'est une codification, les gens acceptent le jeu, car c'est entre guillemets un jeu rituel, sacrificiel, qui est accepté. Ensuite, il est ramené dans le centre cérémoniel, où là, il sera sacrifié de différentes façons. Je ne vais pas rentrer dans les détails du sacrifice. Mais vous voyez, je vous ai montré des scènes de combat avec l'armement, donc la masse d'armes et le bouclier, et un équipement avec évidemment des protections en coton renforcées de pièces de cuir. Mais ces pièces latérales qui sont sur le corps de chaque côté et qui sont en cuivre ou en bronze. Et puis pour les parades, elles sont en or généralement. Voici donc l'armement traditionnel. Alors une représentation symbolique en céramique en haut. Et puis après, vous avez de véritables masses d'armes avec ici la tête étoilée à droite qui représente des cervidés. Si vous regardez bien, c'est cruciforme et vous avez quatre cervidés. Alors pourquoi les cervidés? Puisque la chasse aux cervidés, comme un peu partout dans le monde, en tout cas dans notre Europe médiévale, le cervidé et la chasse aux cervidés est réservée aux seigneurs et c'est un entraînement à la guerre. Donc les gens, ils montrent ses capacités à diriger une unité au cours de cette chasse. Alors vous avez des haches aussi. Et puis, en bas à gauche, vous avez différentes formes de masses d'armes. Vous les avez en pierre, en bronze. Et vous avez tout à fait en bas à gauche une pièce en forme de demi-lune que vous pouvez inverser, qui est le toumi. Le toumi, cette pièce particulière, qui est le couteau de sacrifice, qui permet d'égorger les victimes. Sur la côte sud, toujours à la même époque, dans la région de Nazca, plus connu pour ses géoglyphes, vous avez des représentations donc d'un guerrier au centre, et puis vous voyez à côté deux guerriers qui montrent la blessure au genou. Ils ont été touchés donc par cette masse d'armes, et ils vont être capturés. Ce qu'ils portent sur le turban, ce qu'ils portent tous les deux sur le turban, c'est une petite flûte, et ces flûtes sont utilisées par les guerriers pour des signaux. C'est la transmission, c'est le système de transmission dans les armées préhispaniques. Alors vous avez le petit tambour ou la flûte. Il n'y a pas d'instrument à cordes, ce ne sont que des instruments à vent ou à percussion. Et puis en bas, vous avez la conséquence. La conséquence, c'est la tête trophée. La tête va être fondamentale dans tout le monde amérindien. Si on a le temps, on verra que jusqu'en Amérique du Nord, c'est évidemment le raccourci, le scalp qui est utilisé. Alors vous avez une véritable tête trophée qui vient de Nazca, d'une tombe Nazca. Et puis à côté, à droite, une céramique qui représente une série de têtes trophées. Donc le fait de la représenter en céramique, c'est comme si vous mettiez de vraies têtes trophées. Donc si on compte le nombre de têtes trophées en céramique, ça veut dire que le guerrier qui est enterré là a capturé autant et a sacrifié autant d'ennemis. Et puis un petit montage que j'avais fait pour une exposition de différentes têtes trophées où vous voyez la surprise et puis la première à gauche, ensuite à droite une autre tête trophée, il a déjà les lèvres cousues par des épines de maguey qui est un grand cactus. Celui qui est en bas à gauche, il est en train de passer tout doucement de vie à trépas, et celui qui est en bas à droite, il est déjà passé à trépas. Donc c'était un petit clin d'œil. Alors je vous ai parlé de ces protections coxales. En voici à gauche, en bas, et puis au milieu, au centre. Ce sont deux très belles pièces qui proviennent des fouilles de la tombe du seigneur de Sipan, auquel j'ai eu la chance de participer lorsqu'il a été découvert à la fin des années 80. Ce sont des pièces en or. La tombe contenait plus de 200 kilos d'objets en or sur le seigneur de Sipan. Et il avait en particulier toutes ces parures, qui étaient parures de parade, qu'il portait lors des grandes cérémonies. En haut, vous avez un toumi, un couteau donc en cuivre, et à droite, vous en avez deux en or qui malheureusement, évidemment, n'existent plus. Ils ont été volés il y a une trentaine d'années dans le musée de Lima. Ce sont des pièces cérémonielles qui existaient. Et il y a eu un très grand vol avec. Il y a très très peu maintenant de toumi en or qui existent dans les musées. Ils ont pratiquement tous été volés. Alors, autre arme qui est très importante à l'époque, la masse d'armes, donc on le voit, de différentes tailles. Vous avez la petite, hein, qu'on peut avoir une petite masse d'armes, et puis une grande, comme le personnage qui est debout en haut à droite, qui tient une grande masse d'armes, et c'est celle qui est utilisée pour faire tomber l'adversaire en le frappant au genou, en s'éloignant de façon à ne pas être trop près pour ne pas être soi-même victime. Une autre arme aussi qui est fondamentale en Amérique, c'est le propulseur. Le propulseur, qui est une arme qui apparaît dès le paléolithique, hein, et qui permet, qui est utilisée pour la chasse et pour la guerre. Hein. Donc, qui porte un propulseur est chasseur et guerrier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le paysan n'a pas d'armement de ce type. L'arc et la flèche étant réservés au peuple de la forêt. Alors, la masse d'armes, voici le seigneur de Sipane avec sa masse d'armes en or, symbolique bien sûr, avec laquelle il a été enterré, et la reconstitution, donc le grand couteau sacrificiel sur la coiffe. Petite anecdote, il a, vous voyez, un collier en forme de cacahuète, dont la moitié à droite est en or, l'autre moitié à gauche est en argent. Ah ben, ce n'est pas parce qu'il aimait les cacahuètes, mais c'est la seule huile qui existe au Pérou. Donc, qui possède des cacahuètes possède une richesse économique importante, hein, et c'est pour montrer. Et le fait qu'elle soit en or, à droite, c'est le côté masculin, le côté solaire, et à gauche, en argent, c'est le côté féminin, c'est le côté lunaire, car dans la mort, puisqu'il est divinisé, il rejoint le monde du Dieu créateur, et à ce moment-là, il est évidemment, il a ces deux potentialités en lui, masculin et féminin. Je vous ai mis aussi quelques céramiques qui sont très courantes dans les tombes, où vous avez des représentations de captifs, donc les mains attachées dans le dos, dénudées, sexe apparent, ça c'est très important, et puis la corde autour du cou avant d'être sacrifié. Donc voici quelques reconstitutions qui ont été faites dans le musée consacré donc aux tombes de Sipane, puisque je vous ai parlé de ce seigneur de Sipane. En réalité, il y en a 14, hein, il y en a 8 qui ont été fouillées, il en reste quelques-unes à fouiller. Ce sont des problèmes financiers puisqu'il faut environ 50 000 dollars pour fouiller une tombe. Et puis surtout, il faut la protéger. Ça implique la présence d'une compagnie d'infanterie sur place 24 heures sur 24 pour protéger les objets et les archéologues qui fouillent. Parce que c'est évidemment c'est une source de richesse pour le village et ils n'admettent pas que les archéologues récupèrent les objets. Ils préfèrent les vendre eux-mêmes. Au Mexique, nous avons donc pour la même époque, on est toujours dans cette grande tranche, troisième millénaire, sixième siècle de notre ère. Je vous ai mis une rare, c'est pratiquement unique, une scène de bataille en bas à droite qui provient de l'ouest du Mexique. L'ouest du Mexique, donc ces régions qui sont sur le versant Pacifique, tout à fait à gauche de la carte, là près du petit lac que vous voyez, enfin petit lac qui est un grand lac, le lac de Chapala, et les personnages qui sont représentés en haut, vous remarquerez tout de suite qu'ils sont équipés de masses d'armes, exactement, et en bas aussi, parce que c'est la seule zone qui était en contact maritime avec les pays andins dès le deuxième millénaire avant notre ère. Donc il y a eu des échanges, c'est le seul endroit. Les armes un peu plus tardives, avec le propulseur à gauche, propulseur évidemment de cérémonie. Là, on est au Mexique, donc ce sont des armes qui correspondent à l'horizon aztèque. Et puis à droite, bouclier orné de plumes et de peaux de jaguar, puisqu'il existe deux ordres, donc on peut savoir que c'est un guerrier jaguar. Vous avez deux grands ordres de chevalerie à Mexico, les guerriers aigles et les guerriers jaguars, qui représentent tous les deux respectivement le soleil diurne et le soleil nocturne. Une grande lance et une sorte de sabre en bois extrêmement dur, dont les bords sont équipés de lames d'obsidienne. Et les descriptions, vous avez le dessin en bas, les Espagnols nous expliquent d'ailleurs que ces armes sont très très efficaces et qu'ils ont vu des chevaux décapités avec ces armes. Car évidemment, lorsque les Aztèques vont capturer les premiers chevaux, ils vont les sacrifier, puisqu'ils n'en avaient jamais vu. Ils trouvaient que c'était une bonne occasion d'offrir aux dieux des chevaux. Alors, voici quelques boucliers aussi. Ce sont des pièces exceptionnelles, probablement les pièces qui ont fait partie des envois de ce que Cortés envoie à Charles Quint. Donc, la plupart sont au Volkerkunde de Vienne, et qui étaient évidemment des cadeaux, des présents de Moctezuma II, le dernier empereur aztèque, à Cortés, avec un propulseur en or, en bois et en ivoire, hein, dans la partie basse. Alors évidemment, tous ces motifs ont un sens. Ce n'est pas le lieu, on ne va pas s'étendre là-dessus. Hein, mais en gros, vous avez le nom du propriétaire à droite avec son glyphe patronymique. Et puis à gauche, vous avez ce motif en forme de grec escalonné. C'est le terme que nous utilisons dans les milieux américanistes. Hein, c'est le motif de la montagne pyramide. Chez les Mayas, donc on est toujours dans cette période, encore avant le monde aztèque, vous avez des guerriers aussi. Hein, l'équipement, la guerre, je ne sais pas si vous avez vu, certains ont vu le film Apocalypso, qui était un film où, évidemment, le trait était poussé à l'extrême. Hein, mais chaque cité se faisait la guerre, hein, c'est un peu le monde grec, hein, où chaque cité est indépendante, hein, et se fait la guerre pour le contrôle de la route du sel, le contrôle de l'eau, car ici, évidemment, là aussi, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur des terres, et puis du cacao, du jade, etc., tous les produits, évidemment, de luxe. Les guerriers sont équipés de grands boucliers rectangulaires ou de boucliers circulaires. Ces figurines proviennent des tombes, hein, de ces guerriers. Alors là aussi, pendant très longtemps, on a décrit le monde maya comme un monde, une société théocratique dirigée par des prêtres ne faisant pas la guerre, très pacifique. Et puis, dans les années, au début des années 50, dans la jungle du Petén, il y a un temple qui est découvert, qui s'appelle Bonampak, et à l'intérieur, les fresques, ces peintures absolument exceptionnelles qui représentent évidemment des scènes de combat. Alors là aussi, c'est très très rare. Donc avec ce magnifique bleu maya, hein, qui est obtenu avec du lapis lazuli et qui représente. Donc vous voyez que tous les guerriers sont équipés, hein, les principaux chefs sont équipés de peaux de jaguar, c'est le signe des chefs, hein, c'est facile à identifier, de lances, hein, c'est l'arme, et de propulseurs que l'on trouve très couramment. Donc voici une restitution, donc capturée par les cheveux, hein. Ce sont des combats qui engagent bon, quelques dizaines d'individus. Hein, on peut aller jusqu'à une centaine de personnes, hein, sur ces théâtres d'opération, si on peut les appeler ainsi. C'est très proche, les cités ne sont pas très éloignées les unes des autres, et elles se faisaient régulièrement la guerre. Deux motifs, motif économique, contrôle des routes commerciales, et puis bien sûr la dimension symbolique qui permettait de sacrifier, hein, chacune dans ces temples, les victimes qui avaient été capturées. Donc les représentations après les scènes de combat, je dirais qu'on a plus de représentations post-combat ou pré-combat que du combat lui-même. Donc ici, les captifs qui sont amenés devant le Seigneur et qui vont être sacrifiés. Hein, vous avez ici des reconstitutions de guerriers mayas sur la Gauche. Alors, les fresques de Bonampak remontent entre... C'est difficile à dater, hein, parce qu'on n'a pas de matériel organique. Hein, donc, on considère que ça remonte au fin du 7e siècle, début du 8e, les fresques de Bonampak. Alors, il faut savoir que ce sont des fresques qui ont disparu pendant une dizaine d'années à la suite de l'éruption d'un volcan au Guatemala qui a entièrement recouvert les temples. Et elles sont maintenant de nouveau accessibles, visibles, hein, y compris pour le public. Bon, le seul problème, c'est que l'expédition pour aller à Bonampak, il y a 3 heures de piste. Et quand je dis piste, c'est vraiment une piste. Et après, il y a 1h30 de lanchas, de grande embarcation sur l'Usumacinta. C'est à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Bon, donc, il faut y aller quand il n'y a pas trop de troubles. Sinon, ce qui m'est arrivé une fois, d'être pris en otage pendant 24 heures... côté guatémaltèque. Bon, tout se négocie, hein, en Amérique latine, et on arrive à sortir avec... non, dollars. non, cacahuètes vertes. Et bon, en négociant, il faut parler espagnol, c'est plus facile, et puis il faut montrer qu'on n'est pas là pour se mêler des affaires internes des gens, hein, qu'on venait voir quelque chose de très précis sur les anciens mayas, sur... Voilà. Là, à ce moment-là, ils sont sensibles. Hein. Le côté historique est très payant dans toute l'Amérique. De nouveau, voyez ces fresques de Bonampak qui sont absolument magnifiques, où vous avez les captifs qui sont déjà un peu ensanglantés. Voyez, on leur a déjà cisaillé un peu les doigts, car il faut absolument que le sang coule. Hein, c'est important, le sang va nourrir la terre. En réalité, le sang, c'est la pluie fécondante, celle qui permet, hein, de fertiliser les sols. Et sans sang, évidemment, c'est dramatique. Alors, On va passer à l'horizon plus tardif, donc cette fois-ci, là, on dépasse maintenant le 7e, 8e siècle, et on va jusqu'à la conquête espagnole au 16e siècle, et on va travailler là essentiellement sur les grands empires constitués, les deux, l'empire aztèque, l'empire mexica, et puis l'empire inca. Alors vous avez une carte donc, du Mexique, donc ce que la dimension impériale des Aztèques est un peu particulière. Vous avez tout ce qui est en rouge, en ocre foncé, sous contrôle immédiat de l'Empire, avec des gouverneurs. Et le reste de la Mésoamérique est soumis à l'Empire aztèque, mais associé entre guillemets, puisqu'ils doivent payer un tribut régulièrement à Mexico, deux fois par an. Vous avez la ville de Mexico, qui est une ville lacustre, en haut, hein, sur la lagune. Et puis, en bas, vous avez un très beau manuscrit qui représente la ville de Mexico, sa fondation. Vous voyez que là, il n'y a pas de serpent dans la gueule de l'aigle, car c'est une vision très tardive qui a été utilisée par les franciscains, hein, puisque le serpent, dans leur esprit, représentait le serpent à plumes, Quetzalcoatl, vaincu par l'aigle Charles Quint. Donc, comme ils avaient utilisé le langage symbolique des Aztèques, pour l'écrire également de la même façon. Et en dessous, l'aigle est posé sur un figuier de barbarie. Et sous ce figuier de barbarie, vous avez le glyphe de la guerre, le bouclier avec les flèches. C'est le glyphe qui signifie les guerres. C'est-à-dire que l'affichage qui est ici vous donne tout le fonctionnement de l'Empire aztèque et de son économie. La guerre et le tribut. Si vous regardez en détail, tout en haut, vous pouvez lire André Tevez, cosmographe du roi, puisque c'est un manuscrit qui maintenant se trouve à Oxford, hein, qui nous a été pris, on évoquait les Anglais et les Français, qui a été pris par les Anglais, hein, mais qui est arrivé d'abord en France. Alors, bon, c'est vrai qu'on l'a pris nous aussi, c'est un de nos corsaires, je dis bien corsaire, pas pirate, hein, Jean Florin, qui a raisonné un des premiers envois de Cortés et qui ramène ça à Dieppe. Alors, on le sait parce qu'un corsaire, il y a un notaire royal qui enregistre absolument tout ce qui est à bord. Et ça a été donné à Tevez, qui était cosmographe du roi. Alors, l'Empire aztèque est un empire extrêmement guerrier. La guerre, que ce soit chez les Aztèques ou chez les Incas, est le meilleur moyen de résoudre tous les problèmes politiques. Problèmes politiques et religieux. Puisque les Aztèques font d'abord la guerre dans une dimension symbolique et rituelle, il faut des victimes. Alors, pourquoi plus qu'au Pérou? Essentiellement parce qu'au Mexique, il n'y a pas d'animaux domestiques. En réalité, il y en a deux. Il y a le chien et le dindon. Le dindon, c'est assez moyen. C'est bon, oui, peut-être, mais bon, ce n'est pas extraordinaire comme offrande. Donc, alors qu'au Pérou, il y a toute la gamme des camélidés, hein, qui est très importante et qui représente là une offrande très importante. Donc, plus de sacrifices humains au Mexique, des sacrifices humains au Pérou, mais en moins grande quantité. Alors, comment commence l'opération bataille? Car on est là pour ça. Là, on est dans les empires constitués. Alors, la bataille commence par, d'abord, une phase diplomatique. C'est-à-dire, on va voir les gens qu'on veut conquérir et on leur propose de s'associer. On leur envoie des ambassades avec des cadeaux. Et vous avez un manuscrit en bas qui s'appelle le Codex Mendoza, du nom du premier vice-roi, Don Antonio de Mendoza, qui fait rédiger ce codex par les scribes, les tlacuilo aztèques, et qui fait commenter en nahuatl et en espagnol, dans la langue des Aztèques et en espagnol. Pourquoi il fait réaliser ce manuscrit? Parce qu'il veut remettre en marche le système impérial aztèque de l'administration, parce qu'il se rend compte que le système ibérique qui essaye de s'implanter ne fonctionne pas très bien, et on reprend l'administration de l'Empire, et qui marchait très bien. Donc il veut savoir comment ça marche, quels étaient les notables et tout. Et les gens avec un éventail de plumes sont les ambassadeurs. Donc on envoie des ambassadeurs. Ces ambassadeurs offrent des tas de cadeaux et expliquent à la cité ou à l'entité qu'on veut conquérir, écoutez, voilà, on vous conseille de vous soumettre, de rentrer dans la mouvance impériale, vous allez bénéficier de ce système. Alors beaucoup acceptent, parce qu'il y a le système de réciprocité du don et du contre-don qui fonctionne dans le monde amérindien, et beaucoup se disent, entre le risque de terminer sur les pierres de sacrifice et puis l'association en bénéficiant du tribut, on va quand même accepter. Mais d'autres n'acceptent pas. Alors à ce moment-là, il y a une deuxième phase d'ambassade qui est envoyée, qui est plus menaçante. Et cette fois-ci, on explique que si on ne se soumet pas, eh bien voilà ce qu'on risque. On va aller dans la bataille, on va la perdre bien sûr, vous allez perdre la bataille, et vous serez amenés dans les temples à Mexico, où vous serez tous sacrifiés. hein, vos femmes seront prises comme esclaves, etc. Et tout. Et alors, si ça ne marche toujours pas, on attend un petit incident. C'est très codifié, mais tout le monde fonctionne de la même façon. On attend un petit incident, qu'on s'arrange, bon, on le provoque, hein, l'incident. En général, ce sont des commerçants qui sont attaqués et massacrés. Alors ça, c'est le casus belli. Vous touchez aux commerçants spécialisés dans le commerce à longue distance de produits de luxe. Ça, il n'y a pas pire. Hein. Donc à ce moment-là, vous rentrez dans une phase de casus belli. Et à ce moment-là, on s'engage dans la bataille. Alors la bataille, comment se déroule une bataille ? Une bataille, là, nous sommes donc dans des unités constituées. Bon, je dirais qu'une division aztèque, entre guillemets, si j'essaye de caler hein, avec des termes très contemporains, ça représente en gros un millier d'hommes. Ensuite, c'est organisé en bataillon et en compagnie, hein, selon un système vigésimal, avec des officiers, hein, des commandants, des capitaines, hein, comme un peu dans toutes les armées du monde. L'empereur et le général en chef est toujours installé sur un point haut, de façon à pouvoir contrôler le terrain et à donner ses ordres. Il est entouré donc de gens avec des tambours, avec des trompes, des trompettes, pour donner évidemment les instructions. Les chefs portent des emblèmes, comme au Moyen-Âge, ils ont des... Vous voyez, c'est très, très coloré, hein, et les soldats sont associés évidemment à un seigneur, un guerrier confirmé, qui a déjà fait plusieurs batailles, hein, qui a donc une belle barrette de décoration hein, sur la poitrine, et qui possède ses armes, entre guillemets, hein, son identité. Au cœur de la bataille, on se garde alors, comme chez les Incas, on verra, c'est exactement la même chose, hein, le système de fonctionnement est absolument similaire, on se garde une très grosse unité de réserve qu'on lancera dans la bataille au dernier moment, quand on aura besoin d'emporter vraiment au moment où ça risque de basculer. Mais on met devant, tout de suite d'entrée de jeu, les guerriers aigle et jaguar, qui constituent l'élite de l'armée, c'est-à-dire ceux qui ont fait preuve déjà dans de multiples combats de leurs compétences militaires hein, et qui ont déjà ramené des dizaines de captifs. Alors, ces guerriers sont entourés par les jeunes guerriers qui vont les aider à capturer. Les jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui rentrent, font leur premier combat et qui vont accompagner des guerriers confirmés et dont le rôle se limitera à capturer, une fois que le guerrier aigle ou jaguar aura attrapé un captif, de ramener vers l'arrière ce captif. Alors vous avez ici l'armement des guerriers, donc hache, cette épée avec ses lames d'obsidienne, et l'arc et la flèche au Mexique qui est utilisé également avec le propulseur. Et vous avez en bas sur le manuscrit Mendoza, c'est le tribut qui doit être livré. Vous voyez, les peuples tributaires doivent livrer des tenues de combat complètes, un équipement complet, hein, par centaines à Mexico régulièrement, car évidemment la ville est en permanence en guerre. Autre représentation de ces guerriers aigles, alors la pièce est magnifique, celle de gauche, elle est taille humaine, hein. Elle fait 1,87 m, donc elle est un peu plus grande, et elle a été trouvée sur les fouilles du Grand Temple de Mexico, où j'ai eu la chance de participer pendant 2 ans, hein, dans l'enceinte qu'on a appelée le Temple des Aigles, qui est réservée donc à ces guerriers aigles et jaguars qui se réunissent pour élire le souverain, car au Mexique, le souverain est élu par ces guerriers. Et puis en bas, vous avez la sculpture qui a servi de modèle à la compagnie aérienne Aeroméxico, d'ailleurs, qui représente un guerrier aigle, et en haut, une petite figurine de guerrier aigle. Alors, les scènes de combat se situent, évidemment, on se bat pas nécessairement à l'intérieur de l'espace urbain, mais on essaye de trouver un terrain à l'extérieur, d'amener l'ennemi sur un terrain. Donc là, vous avez un manuscrit, évidemment, post-conquête, hein, et qui représente des combats entre populations mexicaines. Hein, les Aztèques, d'une part. Alors, les Aztèques sont à gauche, avec, vous voyez, et toutes les cités avaient le guerrier aigle et le guerrier jaguar, puisque tout le monde fonctionne avec les mêmes principes. Mais pour exciter les Aztèques, les gens, c'est la cité d'Azcapotzalco, dont le nom Guerra de Azcapotzalco, qui est écrit en haut, qui est une grande cité du lac de Mexico, hein, qui, avant les Aztèques, dominait toute la région. et les Aztèques se sont emparés de cet empire. Mais alors, pour les vaincre, c'est un souverain, en 1428, pardon, qui va lancer cette opération. Et les gens d'Azcapotzalco, assez confiants, insultent même, font insulter les guerriers aztèques par des femmes au sommet des toits des maisons, hein, histoire de les provoquer un peu plus. Et en réalité, bon, là, les Aztèques vont s'emparer de la ville d'Azcapotzalco et s'installer, évidemment, intégrer la ville qui est maintenant un des faubourgs de Mexico. Donc ce sont des combats, là, qui engagent des milliers d'individus. Hein, là, on est d'accord avec des bataillons. Hein, le général en chef est sur une élévation ou porté dans une litière, un palanquin. L'empereur aussi. Et les officiers reçoivent les ordres par des instruments et des bannières, par des instruments de musique et des bannières, des trompes et des tambours, et des bannières qui, un peu comme dans l'Asie, le Japon peut-être, dont vous allez parler, hein, vous verrez que les équipements parfois sont assez proches. Et c'est normal puisque le monde amérindien est un monde évidemment originaire d'Asie. Alors voici les scènes de capture. Là, on a des descriptions très importantes où on voit le but est véritablement là de ramener la victime à Mexico ou dans l'autre temple pour la sacrifier dans l'autre ville. Et ce que les Espagnols n'ont pas compris au début, puisque c'est en réalité deux conceptions différentes de la bataille, hein, l'une qui cherche à tuer, les Espagnols cherchaient à tuer, à avoir un maximum, un effet évidemment immédiat sur le champ, tandis que les Mexicains cherchaient à capturer des Espagnols pour les sacrifier, ce qu'ils vont faire au début. Hein, et on a des descriptions horrifiées de Cortés voyant, hein, sur certains quartiers au sommet d'un temple, quatre Espagnols qui vont être sacrifiés au sommet du temple de Mexico. Alors, les combats contre les Espagnols, je dirais que, comme on a pu le dire de temps en temps, hein, et même assez souvent, ce n'est pas la supériorité de l'armement des Espagnols, ni le fait d'amener quelques chevaux, hein, ou des armes à feu qui a fait basculer les batailles. Ce sont les peuples qui avaient été soumis par les Aztèques, fraîchement soumis, qui se sont immédiatement associés à Cortés. Et en particulier, il y avait une cité très importante, la cité de Tlaxcala, qui se trouve à une centaine de kilomètres de Mexico, qui a rejoint les troupes de Cortés et qui avait voué une haine viscérale, hein, aux Mexicains. Et d'ailleurs, ce sont les Tlaxcaltèques qui vont faire la prise de Mexico, ce ne sont pas les Espagnols. Hein. Les Espagnols, Cortés va laisser faire. Il va même laisser, hein, pratiquer des sacrifices humains par les Tlaxcaltèques. Bon. Il dit « Ah, mais j'ai pas pu les arrêter, etc. Bon. » Parce qu'évidemment, les prêtres lui disent « C'est pas très bien, ça, de laisser... Alors, la conséquence de la bataille, toujours, la capture par les cheveux, vous voyez, c'est ce qui est représenté. En haut, c'est toujours, hein, cette représentation de la guerre. Et la scène que je vous mets, ça vient toujours du Codex Le Mendoza. Et vous avez les pochtecas, ces commerçants avec les grands ballots qui sont posés, qui portent l'éventail des diplomates, vous voyez, qui sont tués. Hein, donc, évidemment, c'est le casus belli. Alors, il faut savoir que les commerçants, quand même, tués, il y a des raisons. Hein, puisque c'est le service de renseignement des armées. C'est le 13e dragon parachutiste. Ce sont des gens qui sont chargés d'aller dans la profondeur, hein, qui apprennent les langues, qui se dissimulent sous les vêtements, qui portent les vêtements des populations locales, hein, et qui s'installent et qui renseignent, hein, les armées. Donc, évidemment, ils ont une certaine valorisation. Ensuite, on parlait de la tête. Hein, voilà, donc, les crânes des victimes sacrifiées sont exposés sur un édifice en pierre qui est surmonté d'un chevalet de bois, hein, où les crânes sont empalés par les temporaux, hein, ça s'appelle un tsompantli, et évidemment on s'arrange toujours pour faire défiler les peuples soumis, hein, à côté de cet édifice pour leur rappeler que les têtes qui sont là, ce sont ceux qui se sont rebellés. Alors voici rapidement, mais je ne veux pas insister, les fouilles du Templo Mayor, hein, il y a des tas de choses, je crois que j'ai mis beaucoup de choses. Hein, vous voyez, les temples sont superposés les uns sur les autres. On ne détruit jamais un sanctuaire, on reconstruit par-dessus. Ce qui fait que pour l'archéologie, c'est une mine extraordinaire, puisque plus de 20 000 objets ont été trouvés intacts dans les fouilles du Grand Temple de Mexico, qui correspondent depuis 1325, la fondation de Mexico, jusqu'à 1521, la chute de Mexico, aux différents empereurs. Ce que vous voyez de couché sur les marches, ce sont les représentations des princes locaux de la vallée de Mexico, vaincus, qui sont mis sur les marches pour bien montrer que ce sont les Mexicains qui dirigent. Et voici la conquête du Mexique faite par les Espagnols avec leurs alliés indiens. Vous voyez, il y a très très peu d'Espagnols. En réalité, ils sont 200 au début, hein, en tout cas dans la première opération. Au Pérou, c'est le même principe, sauf que l'Empire est beaucoup plus étendu. Il est sur un axe nord-sud. Et que les territoires sont aussi très différents entre une côte désertique, un haut plateau qui oscille entre 3002 et 4000, et puis des sommets qui vont à plus de 6000, et le versant amazonien. À l'époque Inca, il existait ce que vous voyez sur la carte de droite, deux grands axes, deux grandes voies qu'on appelle les chemins de l'Inca, une voie côtière, une voie qui traverse le corridor interandin, et le tout est relié par des rocades qui permettaient de passer de l'un à l'autre. Alors, vous voyez le chemin de l'Inca en haut, vous voyez, c'est une route empirée. Alors, il n'y a pas de véhicule, puisque tout se fait, il n'y a pas d'animaux de trait. Le lama ne peut que porter 30 kilos, pas plus, mais on ne peut pas monter un lama, hein, ça n'existe pas. Et vous avez ce chemin de l'Inca, donc une route empirée qui est aménagée, hein, qui est construite, avec au centre, vous voyez la file de pierre blanche et l'écoulement des eaux de pluie. Donc les voies, les chemins de l'Inca sont construits par les armées incas. C'est un peu comme dans le monde romain, on progresse, les armées au fur et à mesure étendent le réseau. Car la route est un instrument de pouvoir, de communication, mais de pouvoir. Alors évidemment, les ponts, les fameux ponts vertigineux, hein, puisqu'on franchit, comme il n'y a pas de chariot, on franchit à dos d'homme. Donc voici quelques représentations de ces dos. Alors les camélidés qui ont le pied très sûr en montagne passent très bien sur ces ponts suspendus en corde, hein, qui sont extrêmement solides. Vous en avez des représentations anciennes, et puis un qui est en cours de fabrication. Hein, ici, on est dans le nord du Pérou. Ces routes sont, excusez-moi, vous avez ici donc une représentation d'un manuscrit illustré, à gauche, en bas, le Guaman Poma de Ayala, qui est un métis, et qui rédige une chronique sur l'Empire Inca. Et tout l'Empire est jalonné, pratiquement tous les 20-30 km, suivant les régions, de relais, de petites garnisons, avec de la logistique. Ce qui fait que les armées ne transportent pas de logistique, ou pratiquement pas. Elles ont sur place, à chaque fois qu'elles se déplacent, l'armement, les vêtements, la nourriture. Et je vous ai mis une des plus célèbres, je dirais, petites forteresses, parce qu'en réalité, ce n'est rien d'autre, hein, même si Bingham, lorsqu'il l'a trouvée en 1911, a un peu fantasmé sur le refuge de l'Inca ou des Vierges du Soleil. C'est une petite garnison sur le limès oriental, hein, sur la frontière orientale des Andes. C'est Machu Picchu. Alors, vous avez des grandes forteresses, comme celle qui protégeait le Cusco. Car au début, l'armée, vous avez un tout petit noyau professionnel, et puis ce sont les paysans, avec une sorte de conscription, qui sont requis pour 4 mois. Hein, et puis après, il faut qu'ils retournent dans les travaux des champs, et il y a une autre rotation qui s'effectue. Et en 1438, l'empereur Pachacutec, qui remporte une très grande victoire, parce que la ville de Cusco était assiégée, décide de protéger la ville par une immense forteresse mégalithique avec 3 enceintes sur 3 niveaux différents, hein, et une seule porte d'accès. Donc cette forteresse, avec des pierres qui pèsent parfois jusqu'à 30 tonnes, qui ont été évaluées à 30 tonnes, c'est la roche mère, hein, qui est utilisée, hein, et cette forteresse n'a jamais été prise. Hein. Alors, on n'a pas de combat, je dirais, de siège des cités. On n'attaque pas une cité parce qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de machine de guerre, il n'y a pas de catapulte, il n'y a pas... Donc ce sont des combats en général de champs clos, de terrain. Alors voici l'Inca porté dans sa litière en bataille. Donc lui, il est je dirais, au début, hein, il ne peut pas être à l'arrière des troupes, hein, il doit être commandé, mais il est entouré d'une garde un peu comme... Le roi des rois, il a une garde, hein, constituée de 5000 soldats qui doivent mourir sur place pour protéger l'Inca. C'est ce qui va se passer d'ailleurs lors de la première entrevue à Cajamarca. Et puis, de là, il donne ses ordres, il a ses généraux. Ses généraux rejoignent après les unités, hein, et donnent leurs ordres. Après la bataille, évidemment, il y a la répartition, le butin, puisque la guerre, encore une fois... Alors, au Pérou, elle n'a pas d'incidence symbolique. Elle est essentiellement économique. C'est accroissement de l'Empire, du territoire et des richesses de l'Empire. Et le tribut qui fait vivre l'Empire. Les uniformes, Il existe des uniformes. Voici les uniformes et avec des unités qui sont caractérisées. Regardez la petite figurine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage blessé au genou en haut. Vous avez l'uniforme, la tunique à gauche. À l'époque Inca, donc on a quand même plusieurs siècles hein, entre la culture Nazca et jusqu'à 450 de notre ère. Ils ont gardé les mêmes tenues et c'est l'armée de la côte sud. L'armée Inca de la côte sud porte cet uniforme. Et puis ensuite, vous avez les différents corps. Je vous donne, ce sont des vraies tuniques, hein, des tuniques qui ont été évidemment conservées, qui sont au Pérou. Et les officiers possèdent une bande, vous voyez, au milieu, avec des motifs dont vous avez le détail en bas à droite. Cette bande indique que c'est un officier. Donc, le velcro, hein, il n'y a pas 36 000 façons de représenter. Alors, la fin de l'Empire Inca, eh bien, c'est une guerre entre deux Incas, en réalité. L'un qui est, je dirais, celui qui est au Cusco, qui hérite, entre guillemets, du pouvoir, et puis un fils qui commandait les armées du Nord et qui est poussé par son entourage, ses officiers, ses généraux, dire « Mais comment, lui, il est au Cusco, il fait rien, toi, tu diriges les armées, tu fais les conquêtes, il faut que tu prennes le pouvoir. » Bon, il se laisse emmener dans cette aventure, et c'est Atahualpa qui va faire capturer, alors c'est parmi les plus grandes batailles des Incas, puisque là, il y a des milliers d'hommes qui sont engagés. Hein. On considère que l'armée d'Atahualpa, lorsqu'il est parti, hein, regroupait un peu plus de 200 000 hommes. 200 000 hommes, c'est quand même pour le 16e siècle, enfin 15e, 16e siècle, c'est quand même énorme. Hein. Dans l'Empire, il y avait en gros 20 millions d'habitants. 200 000 hommes, une armée de 200 000 hommes à traîner sur les routes dans les Andes, c'est énorme. Il capture donc son demi-frère, Huascar, hein, au moment où lui-même va être capturé dans l'embuscade de Cajamarca que lui tend Pizarro, qui l'amène, lui, dans un piège, une ville, hein, et essaye de... il est obligé, l'Inca est obligé de laisser les milliers d'hommes qui l'accompagnent en dehors de la ville, et il va être capturé dans le centre. Vous voyez, les Indiens se font tuer hein, pour protéger l'Inca. Et lorsque l'Inca apprend qu'il se rend compte qu'il va être capturé par les Espagnols, hein, il donne immédiatement l'ordre de faire exécuter son frère, son demi-frère, considérant qu'il vaut mieux avoir un seul Inca vivant que deux. Ce qui n'est pas bête, comme politiquement, c'est pas bête. Donc, Atahualpa, il va y avoir un procès bidon. Vous voyez qu'il a sa bande, hein, la tunique avec la bande, hein, parce que l'Inca est le chef des armées, hein, comme le président de la République est le chef des armées, eh bien, c'est la même chose. Et malgré la rançon en or, hein, des tonnes d'or qui ont été versées à Pizarro, il sera exécuté. Alors, il devait être, évidemment, le procès le condamne au bûcher. Et l'Inca accepte de se convertir au christianisme, non pas parce qu'il a peur de bûcher, c'est parce que, dans le monde Inca, la destruction de l'enveloppe corporelle est quelque chose, c'est ce qu'il y a de pire, donc il ne pourrait pas accéder au monde de l'au-delà. Donc il accepte le christianisme pour être étranglé, le garrot, qui est la peine de mort en Espagne, et il sera étranglé et, ironie du sort, il sera enterré par Pizarro dans une petite chapelle à Cajamarca, et dans la nuit, les Incas viendront sortir son corps, et c'est probablement la seule momie qui devrait subsister des empereurs Incas, puisque toutes les autres ont été brûlées par les Espagnols, car il y avait un culte des momies. Donc l'armée, à cette époque, comme au Mexique, on engage quand même des dizaines de milliers d'hommes dans les combats. Alors, très rapidement, et puis j'ai pas trop dépassé.
Tout ça est passionnant, mais alors...
Non, mais très rapidement, je conclue pour l'Amérique du Nord avec quelque chose, parce qu'évidemment la guerre aussi est très importante. Bon, le scalp, nous sommes chez les peuples algonquins. Vous savez que nous avons été les alliés des Hurons contre les Iroquois, qui étaient les alliés des Anglais. Hein. On se faisait aussi la guerre par alliés interposés. Et le scalp était le raccourci de la tête. Et vous avez là aussi hein, le principe hein, de cette masse d'armes casse-tête. Et puis, de ces documents qui sont brandis, les ambassadeurs, toujours au début, avec une ceinture de coquillage qu'on appelle le wampum, hein, dont nous possédons, il y en a un très beau dans la cathédrale de Chartres, qui est le wampum dédié à la Vierge, hein, ces Indiens qui ont été, Abénaki, qui ont été convertis au christianisme. Et le plus beau, c'est celui qui a été offert donc, au roi de France hein, au moment de l'alliance entre les Hurons et les Français. Il y en a deux exemplaires. Celui des Hurons a disparu. Il n'en reste plus qu'un qui est exposé au Louvre dans la salle des sessions. Et alors, simplement, et puis je n'irai pas plus loin, en Amérique du Nord, on a quelque chose de très particulier dans la bataille. C'est le cavalier à droite. Vous avez, donc on est évidemment à l'ère où les chevaux ont été réintroduits par les Espagnols à partir du Mexique, enfin par les Comanches qui les volent dans les ranches espagnoles et qui les vendent dans les plaines. C'est ce bâton, vous voyez, un peu recourbé, qui est une forme de bataille très particulière. Il ne s'agit pas de tuer, mais ce qui est encore plus humiliant pour un guerrier, c'est d'être renversé de cheval par un coup de bâton. C'est pire que la bataille, c'est pire que d'être tué. C'est une humiliation terrifiante et évidemment, c'est une surenchère après au combat. Voilà. Et puis, bon, je vous avais mis quelques têtes trophées un peu partout, puisque évidemment, en Amérique. Voilà.
C'est ouais, juste, voilà. Un texte écrit.
Oui, c'est.
Produire tout ça. Mais merci beaucoup. Mmh. C'est un tableau très complet,
j'ai
très convaincant.